Pauvre Tiny Tim. Il avait une petite béquille et une mécanique en fer pour soutenir ses jambes. Pendant que les enfants Cratchit s'emparaient gaiement de leur petit frère boiteux, Madame Cratchit demanda à son époux comment allait le petit Tiny Tim. Bob répondit qu'il devenait chaque jour plus fort et vigoureux, mais alors qu'il prononçait ces mots, sa voix trembla. « Esprit !» dit Scrooge, avec un intérêt qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. « Mais dites-moi si Tiny Tim vivra !»« Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer, » répondit le spectre, « et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ses images, l'enfant mourra. » Scrooge baissa la tête et se sentit pénétré de douleur et de repentir. Charles Dickens pose son livre sur les genoux et son regard sur ses jeunes enfants. Il semble très attristé par le sort de Tiny Tim. Le jeune père attend la question de son fils Charley, qu'il sent déjà poindre sur le bout de ses lèvres. « Est-ce qu'il va mourir, papa ?»« Tu verras, mon enfant, tu verras. Mais une chose est sûre, c'est que Scrooge commence à réaliser qu'il a quelques responsabilités vis-à-vis de son employé et de sa famille. À présent, voyons ce qui va se passer avec le troisième esprit de Noël. Et justement, le voilà qui arrive. Charles Dickens reprend son livre. Sa voix se fait plus grave. Une longue robe noire enveloppait l'esprit tout entier et cachait sa tête et son visage, ne laissant rien voir qu'une de ses mains étendues, sans quoi il eût été très difficile de détacher cette figure des ombres de la nuit. Il était d'une taille élevée et majestueuse. L'esprit ne disait rien. Mais il tendit une main vers Scrooge. Charles Dickens s'interrompt une nouvelle fois dans sa lecture. Il lève les yeux vers ses enfants qui, comme il s'en doutait, semblent un peu effrayés par le début du chapitre. Il referme doucement son livre. Il serait peut-être plus sage de résumer la visite du dernier spectre, la plus noire de son conte. Charles reprend comme si de rien n'était, sur un ton plus léger. Le fantôme de Noël futur emmena Scrooge dans le quartier des affaires de Londres. Là, ils entendirent des marchands discuter avec une parfaite indifférence de la mort d'un de leurs collègues. L'homme serait mort dans la solitude et l'oubli de tous. Puis, le spectre conduisit Scrooge chez les brocanteurs. Et ils réalisèrent que les propres serviteurs du défunt étaient déjà en train de vendre tous ses biens. Scrooge demanda alors à l'esprit qui pouvait bien être mort sans que personne autour de lui n'en soit un tout petit peu ému. Mais l'esprit ne répondit pas. Pour toute réponse, il conduisit l'avare dans la petite demeure des Cratchit. Avec douleur, Scrooge trouva toute la famille de son commis en deuil. Le petit Tiny Tim n'avait pas survécu à son handicap. Scrooge ne tenait plus de curiosité et il finit par implorer l'esprit de Noël futur de lui révéler l'identité du défunt abandonné de tous. Le spectre obéit et conduisit Scrooge vers son dernier voyage nocturne. Ils se retrouvèrent dans un cimetière, devant une tombe, sur la pierre. L'avare put lire avec effroi son nom inscrit sur le marbre. Ebenezer Scrooge. Esprit ! S'écria Scrooge en se cramponnant sa robe. Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je vais changer ces images que vous m'avez montrées en changeant de vie. J'honorerai Noël du fond de mon cœur et les trois esprits ne me quitteront plus car je ne veux pas oublier leur leçon. Mais déjà, l'esprit diminuait de taille et s'affaissait sur lui-même. Il se transforma en colonne de lit. Scrooge était rentré chez lui. Ainsi pensa-t-il, le lendemain lui appartenait pour s'amender et réformer sa vie. Il est 18h en ce jour de Noël 1843. Dans le salon des Dickens, le célèbre écrivain fait la lecture du conte de Noël à ses enfants. Ces derniers sont impatients de savoir comment le vieil avare Ebenezer Scrooge s'est réveillé au matin du jour de Noël après avoir été visité par les esprits des Noëls présents, passés et futurs. Charles reprend sa lecture. ciel et la fête de Noël soient bénis de leurs bienfaits !» s'écria Scrooge en se levant. « Je suis heureux comme un ange, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. »« Joyeux Noël à tout le monde » cria-t-il plus tard aux passants dans la rue. « Une bonne, une heureuse année à tous ! Hola, eh oh, hola !» Scrooge parcourut les rues. Il examina les gens qui allaient et venaient en grande hâte, donna aux enfants de petites tapes caressantes sur la tête, interrogea les mendiants sur leurs besoins. « Voyons, je vais commander une dinde et l'envoyer chez Bob Cratchit, mon brave commis !» murmura-t-il en se frottant les mains et en éclatant de rire. « Il ne saura pas d'où cela lui vient. Elle est deux fois grosse comme Tiny Tim !» Le lendemain, Scrooge se rendit de bonne heure à son comptoir. Bob Cratchit se retrouva en retard de 18 minutes et demie. « Hola !» s'exclama Scrooge d'un air malicieux. « Il me semble que vous êtes en retard. Venez un peu par ici. Je ne puis laisser plus longtemps aller les choses comme cela. Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. Joyeux Noël, Bob, que je ne vous l'ai souhaité depuis de longues années. Je vais augmenter vos appointements et je m'efforcerai de venir en aide à votre laborieuse famille. Mais avant de mettre un point sur un i, Bob Cratchit, allez acheter un seau neuf pour votre charbon. » Scrooge fit encore plus qu'il n'avait promis. Non seulement il tint parole, mais il fit beaucoup mieux. Il devint aussi un bon ami, un bon maître, un aussi bon homme que les bourgeois de la bonne vieille cité. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, mais il en eut beaucoup plus avec les hommes, cultivant ses amis et sa famille tout au long de l'année pour bien se préparer à fêter Noël, et personne ne s'y entendait mieux que lui. Quant à Tiny Tim, il ne mourut pas, et Scrooge fut pour lui un second père. Charles referme le conte de Noël. Comme à chaque fois qu'il relit ses textes, il ne peut s'empêcher de ressentir une joyeuse chaleur en pensant à Tiny Tim que Scrooge a sauvé. Il regarde ses enfants qui, déjà, filent en criant vers leur nurserie remplie de jouets. Ces bienheureux enfants, ils ne connaîtront jamais la misère, il y veillera. Et les autres enfants, les autres Tiny Tim. En ce jour de Noël, Charles ne peut s'empêcher de penser aux milliers d'enfants qui errent, déguenillés, dans les rues de Londres, comme lui, jadis. Eh oui, sous son veston de velours rouge flambant neuf et sa grosse chaîne en or, Charles Dickens cache un tragique passé marqué par des souffrances et des drames. Et s'il n'a eu de cesse d'attirer l'attention de ses lecteurs sur les épreuves des enfants, c'est parce qu'il a lui-même connu une enfance difficile. Oliver Twist, Nicholas Nickleby, David Copperfield ou encore Pip dans Les Grandes Espérances, tous ces héros sont des personnages autobiographiques ou des versions inspirées de sa propre enfance et de sa propre évolution dans l'échelle sociale. Mais ses souvenirs sont si éprouvants que seul son ami John Forster, qui deviendra son biographe, en connaît la teneur. Et il faudra attendre la mort du grand écrivain pour que la véritable histoire de sa vie soit révélée. La petite enfance de Charles est plutôt heureuse. Mais le jour où ses parents le déscolarisent marque le début d'une terrible frustration. Tout commence le jour où Monsieur et Madame Dickens et leurs 8 enfants quittent la campagne pour s'installer à Londres. Charles, le deuxième de cette grande fratrie, se retrouve déscolarisé à l'âge de 11 ans. Terriblement frustré, le petit garçon reste cloîtré à la maison. Il n'a d'autre activité que de cirer les bottes de son père ou d'aider sa mère à exécuter de nombreuses tâches ménagères. Bientôt, son père se retrouve embourbé dans de grosses difficultés financières. Le jeune Charles est alors mis à contribution. Le jour de ses 12 ans, on le place dans une fabrique de cirage où il doit coller des étiquettes 10 heures par jour dans un entrepôt sordide. Mais le pire reste à venir. Après la frustration vient l'humiliation. Incapable d'éponger ses dettes, son père et toute sa famille, à l'exception de Charles et de sa sœur aînée, se retrouvent incarcérés dans la sinistre prison pour débiteurs de Marshalsea. Charles est confié à une voisine patibulaire et doit continuer à travailler à l'usine. Après quelques mois, sa famille est enfin libérée. Mais Charles ne reprendra l'école qu'à l'âge de 13 ans, car sa mère, ne souhaitant pas perdre le salaire de leur fils, convainc son mari de le laisser travailler. À la frustration et l'humiliation s'ajoute la trahison maternelle. Charles gardera un traumatisme profond de son enfance. Néanmoins, ce sont toutes ces difficultés qui vont lui donner la force de s'élever au-dessus de sa condition et qui seront à l'origine de cette passion qu'il développera pour le journalisme. Ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu vont nourrir les articles qu'il envoie aux journaux sous le pseudonyme de Bose, ainsi que les petites histoires qu'il remet chaque semaine à des brochures populaires. Bientôt, dans tout Londres, le nom de Bose fait le buzz. Il n'a que 24 ans quand paraît son feuilleton « Les aventures de Monsieur Pickwick » dans le Morning Chronicle. Pickwick est un chef-d'œuvre d'humour et devient tout aussi populaire que Bose, son écrivain prometteur. Très vite, on trouve dans toute l'Angleterre des cigares Pickwick, des chapeaux Pickwick, des chins Pickwick ou du thé Pickwick, qui existe encore aujourd'hui. Un voyageur anglais gravera même Pickwick sur une des pyramides d'Égypte. Bien que tout le monde sache déjà qui se cache derrière le pseudonyme de Bose, il faudra attendre la parution d'Oliver Twist pour qu'apparaisse enfin le nom de Charles Dickens sur la couverture de ses romans. À peine sorti de l'adolescence, le jeune homme devient une célébrité nationale. Surtout, et c'est ce qui compte le plus à ses yeux, il devient un homme respectable. Car Charles a une revanche à prendre sur les hontes et les humiliations de son enfance, et il est prêt à tout pour y arriver. Derrière les beaux idéaux, il est étonnant de découvrir un homme aussi complexe et contradictoire. Humaniste et représentant des opprimés, le self-made man est aussi connu pour son goût du luxe, des bijoux et des vêtements chers et voyants. Défenseur de la condition des enfants, sa propre fille le qualifie de merveilleux et pourtant méchant. Il a ouvert un foyer pour les prostituées et apporte son soutien à une loi qui allège le travail de nuit des femmes et des enfants. Mais il se montre odieux avec sa propre épouse, à qui il reproche les multiples grossesses. À 45 ans, il essaye même d'interner Madame Dickens dans un asile malgré son état tout à fait stable, afin de vivre auprès de sa toute jeune maîtresse de 18 ans. Il est un savant homme de lettres, mais on brocarde ses manières de roturier et son manque d'éducation. L'écrivain américain Washington Irving le juge scandaleusement vulgaire par sa mise, sa manière et son esprit. Charles Dickens se défend ainsi. « Toute ma nature fut tellement pénétrée par le chagrin et l'humiliation qu'aujourd'hui encore, célèbre, choyé et heureux, j'oublie souvent dans mes rêves que j'ai une femme et des enfants bien aimés. J'oublie même que je suis un homme et je retourne vagabonder dans la désolation de cette période de ma vie. » Ainsi Charles Dickens, qui a éprouvé la dureté de la société victorienne du 19e siècle, n'a eu de cesse de défendre les opprimés, tout en menant son propre combat afin de devenir un homme distingué. À force de romans, d'articles, de discours, de pamphlets, de spectacles, l'épuisement a eu raison de sa santé et de sa vie. Mais il a gagné l'estime éternelle de ses concitoyens et le statut de gentleman. Il meurt en juin 1870 à l'âge de 58 ans. Ses funérailles se déroulent en grande pompe. Il est enterré à Westminster, dans le coin des poètes. On raconte qu'une petite fille a longuement pleuré ce jour-là parce qu'elle pensait que Noël disparaissait avec lui. Mais il devient pour tous, et pour toutes les générations à venir, un des esprits de Noël passé. La romancière Margaret Oliphant, qui jusque-là s'était montrée plutôt critique à l'égard de l'inimitable, ne peut s'empêcher de lui rendre un dernier hommage. Elle écrit que le conte de Noël doit être désormais considéré comme un nouveau testament qui n'a pas son pareil pour inciter les gens à devenir meilleurs. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'à la parution du conte de Noël, les dons aux institutions de charité ont subitement augmenté. On raconte aussi que Robert Stevenson a fait vœu de générosité après avoir fermé le livre en 1874. Que l'écrivain Thomas Carlyle s'est mis à organiser des dîners de Noël pour les nécessiteux. Et qu'après avoir assisté à une lecture du livre, un industriel américain a décidé de fermer son usine chaque 25 décembre et d'offrir une dinde à chacun de ses employés. Et vous, qui connaissez à présent l'histoire d'Ebenezer Scrooge. Qu'allez-vous faire ce 25 décembre?